VOA Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Nanit Talani, dans 5 minutes, le magazine L'Amérique et vous avec John Lindon, mais tout d'abord les informations. En RDC, l'opposition qui participe au dialogue politique suspend sa participation aux travaux en commission à cause d'un désaccord avec la majorité présidentielle dans la séquence des élections. Dans sa déclaration ce lundi à Kinshasa, le co-modérateur Vital Kamerhe a annoncé que sa délégation ne reviendra au dialogue que si la priorité est donnée à la présidentielle, comme le veut la résolution 2277 de l'ONU. Écoutons Vital Kamerhe au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le 19 septembre, on devrait convoquer le scrutin présidentiel. Et nous avons dit qu'il ne faut pas attendre, entrer dans l'impasse aux conséquences imprévisibles. Quand nous avons décidé de venir ici. Mais nous avons nos lignes rouges. Nous les avions rappelées, le respect de la Constitution. Nous avons dit, ici nous venons pour l'alternance au pouvoir. Le temps que nous allons passer pour le calendrier, ça doit être pour les besoins de tenir en priorité la présidentielle. Bien entendu, les amis de la majorité, j'allais dire, viennent nous proposer qu'on commence par les élections locales. Mais avec la situation de la décentralisation actuellement, où il y a des groupements fictifs, des groupements sans population, des groupements qui se chevauchent. Mais ça va faire combien d'années pour qu'on remette de l'ordre? Nous avons compris que c'est une façon de nous amener dans un chemin sans issue. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp.
Le gouvernement d'union en Libye soutenu par l'ONU a perdu ce lundi le contrôle d'un troisième terminal pétrolier, se montrant incapable de stopper l'offensive lancée par les autorités rivales basées dans l'est du pays. Les détails avec Tatiana Mosso.
Le pouvoir basé à Tripoli a échoué à défendre les principaux ports permettant au pays d'exporter l'or noir, sa principale richesse économique. Les trois ports du croissant pétrolier ont été conquis par les forces loyales au général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'armée, lié au gouvernement non reconnu basé dans l'est du pays. Le GNA a dénoncé ces attaques, estimant qu'elles étaient contraires au processus de réconciliation. Ce revers risque d'affaiblir à l'heure où ces forces luttent pour reprendre la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique. Une bataille qui s'éternise depuis 4 mois. Si la Libye dispose des plus importantes réserves pétrolières d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils, elle est paradoxalement le membre de l'Organisation des États exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui produit le moins. L'incapacité de la Libye à sortir de la crise inquiète fortement les pays européens, confrontés à l'afflux des migrants traversant la Méditerranée depuis son littoral.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Présidentielle américaine à présent, le médecin d'Hillary Clinton a confirmé qu'elle souffrait d'une pneumonie après un malaise qui a contraint la candidate démocrate de quitter prématurément hier la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre à New York. Ses activités ont été annulées pour aujourd'hui et demain. Cette maladie pourrait-elle avoir de lourdes conséquences sur la suite de la campagne de Mme Clinton? Le professeur Amadou Koné de Georgetown University répond.
Il me semble que tout dépend de l'évolution de la situation. S'il s'agit d'une pneumonie et qui n'est pas grave et qu'elle se remet assez rapidement, il me semble que ça n'aura aucune incidence, n'est-ce pas, sur la campagne. Peut-être même que cette situation attirera à Mme Clinton certaines sympathies. On peut espérer cela, les démocrates peuvent espérer cela. Mais s'il s'agit d'une situation de santé un peu plus complexe qui traîne, cela peut être très ennuyeux et peut-être d'une certaine façon démoraliser les supporters de Mme Clinton. Donc il faut attendre pour voir si, par exemple, après cette semaine, elle se remet et vigoureusement entre en campagne. Je pense que les conséquences ne seront pas trop graves.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a remboursé à l'État près de 500 000 euros d'argent public dépensé pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée. C'est ce qu'a annoncé la présidence aujourd'hui. La Cour avait estimé que ces aménagements ne pouvaient relever de la sécurité du chef de l'État, ainsi que le prétendait Jacob Zuma. Selon la présidence, la somme remboursée par M. Zuma a été financée par un prêt immobilier et le ministère des Finances a confirmé de son côté avoir été payé. Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'infos sur notre site internet www.voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden, Joselle Morrison et Fred assurent la production de ce programme. Mise en onde par Sidrack Franklin. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Une rencontre était prévue cette semaine au sommet de l'Asie du Sud-Est, au Laos, entre Barack Obama et son homologue philippin Rodrigo Duterte. Elle a finalement été annulée par le président américain après avoir été traité de fils d'un terme péjoratif que je préfère ne pas prononcer ici. Les Philippines sont pourtant un pays proche allié régional des États-Unis. Une fois l'acte posé, le gouvernement philippin, dans un communiqué publié juste avant l'ouverture du sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, à Vientiane, a présenté les excuses de Rodrigo Duterte. Le chef de l'État regrette que ses remarques devant la presse aient causé une telle controverse, a déclaré son équipe. Au-delà de cet épisode, de nombreux présidents et leaders du monde entier nous ont habitués à des discours qui très souvent ne cadrent pas avec leurs fonctions ou avec celles qu'ils veulent occuper. On peut citer entre autres Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine, Donald Trump, Robert Mugabe et j'en oublie sans doute. Alors, question, que pensez-vous de l'attitude du président philippin et de la réaction du président américain? Au-delà de ça, que dire de la manière dont nos leaders s'expriment aujourd'hui? C'est la question de l'Amérique et vous cette semaine. Nous vous donnons la parole. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Vous pouvez aussi choisir de poser vos questions directement à nos invités. Et pour nous accompagner dans cette émission, ce soir, nous avons déjà en ligne François Durpère, historien des États-Unis, enseignant. François Durpère, bonsoir.
Bonsoir.
Merci vraiment de votre disponibilité. Il se fait un peu tard à Paris, d'où nous vous appelons. Nous avons également comme invité Alassane Fall, ici aux États-Unis, consultant international. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, Gérard.
Voilà, merci. Je vais commencer par François Durpère. Votre réaction à la suite de cet épisode entre le président des Philippines et puis le président américain Barack Obama?
Il y a plusieurs niveaux d'analyse et c'est vrai que si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il faut souligner que le président philippin, c'est évidemment pas une excuse, hein, mais il faut quand même préciser dès le départ que l'insulte s'est faite dans la langue d'origine de Rodrigo Duterte, hein, le Tagalog. Donc ça veut dire qu'on pouvait penser peut-être que le président philippin, lorsqu'il s'exprime dans sa langue, imagine peut-être que ça ne va pas immédiatement être répercuté. Mais ce qui va être peut-être l'objet aussi de notre débat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère de la transparence absolue et que tout propos tenu dans n'importe quel contexte et évidemment dans n'importe quelle langue et auprès presque de n'importe quel public, eh bien, tout propos peut être l'objet de transparence et de publicité globale, puisque aujourd'hui, c'est le monde entier qui sait ce qu'a dit le président philippin, évidemment, avec les répercussions diplomatiques que l'on connaît par la suite.
Alors, on va poursuivre cette émission, on va en parler avec nos auditeurs et bien sûr des réactions reçues sur Facebook. Nous avons été rejoints par Habib Niakate, journaliste à Jeune Afrique et qui se trouve en ce moment ici aux États-Unis. Habib, bonsoir.
Bonsoir.
Merci.